Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 16 décembre 2013. Et oui, là, on approche de la fin de l'année, on approche des fêtes, on approche de Noël, on approche du Nouvel An. Mais nous en sommes encore à 2 semaines, quasiment. Et donc pour ce Canu Info, Jean-Pierre Michel dans les studios, Robert en duplex. On va évoquer tout d'abord très rapidement une nouvelle nationale et puis on enchaînera aussitôt sur notre rubrique internationale. Alors Robert, la soudaine richesse des gens au SMIC.
Ah oui, c'est la très grosse nouvelle qui est tombée ce soir. Le SMIC au 1er janvier va croître de 0,10 centimes. De l'heure, ce qui en brut, ce qui fait en net 0,08. Alors par curiosité, après avoir eu connaissance de la nouvelle, fait un petit tour dans les magasins voisins, et là où on trouve des petits objets, je pense par exemple chez le marchand de tabac ou à la maison de la presse où il y a plein de petits gadgets ou voire des confiseries pour les enfants, et bien j'en ai pas trouvé à ce prix-là. Alors je sais pas comment les gens vont pouvoir en disant voilà, je viens avec mes 0,08 dans la poche, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour ça? C'est ce que je vais gagner en plus à partir du 1er janvier. Et on leur répondra, eh bien, vous ne pourrez, avec ça, je ne peux absolument rien vous donner. On rappellera simplement pour mémoire qu'il y a 2 600 000 personnes qui sont au SMIC, salaire SMIC. Donc, en fait, depuis un an, ça a accru de 20%, 500 000 en plus. Donc, c'est des chiffres effroyables, 500 000 en un an qui sont passés en situation de SMICAR. Voilà, ce qui fait que ce sera un SMIC à 9,53 brut de l'heure à partir du 1er janvier, et donc tout ça dans le cadre de 35 heures, ce qui fait encore que des 35 heures, il y en a de moins en moins, puisqu'on va vers des temps partiels. Voilà, alors c'était la nouvelle faramineuse que je voulais annoncer d'entrée, puis peut-être signaler que dans quelques temps, il paraît que c'est même pas cette année, mais que c'est l'année prochaine, les salariés allemands auront un SMIC, alors on leur dit bon courage.
Oui, on reviendra bien sûr à la fin de l'année sur toutes ces augmentations, mais on peut quand même souligner l'indécence de l'augmentation par un gouvernement de gauche à un moment où tout le monde augmente de 5% ou 10% les impôts locaux, les assurances sont tous entre 5 et 8%. On se moque vraiment du travailleur en le paupérisant alors qu'il est déjà à son plus bas niveau de revenu.
Et puis pendant ce temps, les salaires des PDG augmentent de 5, 10, 20%.
Voilà, on a pu lire dans Le Monde un article qui nous fait apparaître que les salariés voient leurs revenus augmenter de plus de, je ne sais pas, 2, 5, 8%. On se demande vraiment pour quels salariés ils parlent, mais c'est le langage qu'on veut nous tenir.
Sans compter la hausse de la TVA au 1er janvier.
Oui, en plus avec la TVA qui va venir s'ajouter à tout ça. Donc, perte de revenus pour les plus pauvres, les moins riches. Merci la gauche.
Et l'austérité qui poursuit son chemin.
Alors, rubrique internationale quand même, et toujours, on va peut-être, on a beaucoup de sujets susceptibles d'être traités, peut-être t'as envie, on peut finir avec Mandela rapidement, puisque c'était hier un peu la fin des cérémonies, dans son village, donc on l'enterrait, soi-disant en famille, mais il y avait quand même 500 personnalités, et pas toujours très relevées. Enfin, la France a eu la décence de ne pas inviter Giscard d'Estaing, lui qui soutenait l'apartheid en son temps. Je rappelle aussi, j'avais entendu quelqu'un dire, une journaliste, que Mandela, il s'était forgé une carrure avec ses 27 ans de prison. Et ce journaliste préconisait que tous les présidents, avant de le devenir, fassent 27 ans de prison. C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses, quoi. Et puis, il y a cette anecdote un peu marrante le concernant, c'est qu'il avait un prénom pas possible, que je n'ai pas retenu, mais quand il est arrivé avec son institutrice anglaise ou blanche à l'école, elle lui a demandé son prénom, elle a dit ça, c'est pas possible, tu t'appelleras Nelson. Et qu'est-ce qu'on y a collé comme nom? Le nom d'un amiral, d'un militaire de haut rang anglais. Ça commençait bien pour lui, mais il a su s'en rendre compte et en prendre la mesure, quoi. Voilà. Commentaire sur Mandela, Michel, non?
Bah, oui.
T'as été peiné comme tout le monde?
j'étais très peiné, non, mais bon, on peut en discuter, on peut en parler de la personne, mais j'étais surtout attristé de voir tous ceux qui devaient faire acte de contrition la semaine dernière venir et faire des auto-satisfacies. C'était assez cocasse, notamment de la part du représentant de la première puissance mondiale, Barack Obama, qui a peut-être oublié qu'il a fait 27 ans de prison, oui, mais qu'il a été arrêté grâce à la CIA en 1962, Mandela, et que si au jour d'aujourd'hui l'Union soviétique n'était pas tombée, il est à parier que Mandela serait mort en prison. C'est quasiment une certitude. Donc on a l'impression effectivement que Mandela a pris un peu tous nos péchés sur lui, et voilà, c'est une forme d'image un peu christique, hein, qu'on transfère, voilà, qu'on nous sert à travers le cas Mandela, et c'est assez pitoyable.
Voilà, bon, Mandela, on gardera son souvenir forcément, une espèce de comportement particulièrement intéressant et fort politiquement, mais l'actualité suit son cours, et aujourd'hui, on peut peut-être évoquer d'abord les élections chiliennes. Il n'y a pas de surprise. On pensait que Michel Bachelet serait réélu au deuxième tour. Elle l'est avec un taux de participation faible, 40%, mais avec 62% des voix. Donc, c'est sans ambiguïté. Elle va donc devoir partir pour les réformes qu'elle envisageait de faire. Une réforme de la Constitution, une réforme fiscale avec une idée d'augmenter les impôts sur les sociétés. Elle a promis 50 réformes en 100 jours. Néanmoins, tout ça ne sera pas facile, parce que pour sa constitution, il lui faut les 3/5 ou les 4/5, je crois, des voix, et sa majorité n'est pas à cette hauteur-là. Autrement dit, elle va devoir arriver à convaincre des gens de la droite de la nécessité de réformer cette constitution qui date de Pinochet. Et on peut donc imaginer les entraves que Pinochet avait mis à une pratique démocratique dans le pays. Un Chili où la situation sociale est mauvaise, puisque 90% des travailleurs touchent moins de 350 euros par mois. Ils sont encore plus mal notés que les smicards français. Robert, tu avais quelque chose à ajouter ?
Oui, bon, dire que c'est un pays effectivement qui n'est pas, disons, en crise austéritaire comme en Europe, malgré effectivement les inégalités que tu viens de signaler. Puisque le taux de croissance, alors ça reste un peu dans le système traditionnel de la croissance productiviste, mais néanmoins, taux de croissance qui est de l'ordre de 3 à 4%, ce qui effectivement constitue, par rapport à ce qui se passe en Europe, quelque chose encore de positif. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'effectivement, son projet politique, eh bien, c'est de retrouver un peu sous la coupe de services publics, ce qui avait été privatisé par les époques à la fois Pinochet et de la droite qui a suivi le Pinochet, ou même la droite à qui elle vient de reprendre le pouvoir actuellement, et que ça concerne notamment la santé et l'éducation. L'éducation, ça va être important parce qu'il y a un mouvement lycéen-étudiant très fort, et qui d'ailleurs avait même pris une position très, très dure par rapport, y compris par rapport à Bachelet, où ils avaient pratiquement prôné l'abstention dans le cadre de l'élection. Et puis un autre point qui est sans doute aussi important, c'est le renforcement de ce qui s'appelle l'Alliance bolivarienne dans ce continent amérindien, aux côtés de la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, le Venezuela. Bon, c'est important parce qu'effectivement, c'est Alba, c'est un lieu avec d'autres, mais c'est notamment un des lieux importants de la mise en échec de l'hégémonie nord-américaine sur une grande partie donc de l'Amérique du Sud.
Voilà, autre domaine auquel, autre région, autre pays, autre continent auquel il faut s'intéresser ce soir, c'est l'Afrique, parce qu'il y a au moins trois pays où il se passe des choses qui méritent d'être rapportées. Le Congo avec la fin du M23, la République centrafricaine où la situation reste extrêmement trouble, et puis le Mali avec ses élections, ses 6,5 millions d'électeurs qui, ayant été votés pour un président, estiment ne pas trop se sentir obligés d'aller voter pour des députés. Ils ont peut-être un peu l'impression que le travail est fait. Pourtant, il restait 127 sièges sur 147 à pourvoir. Et à l'heure qu'il est, on n'a pas encore, bien sûr, les résultats, mais on sait que ces élections ne régleront pas tout dans le pays. La République centrafricaine, oui, avec Bangui, donc avec Botoya qui cherche à négocier avec les milices en place, et pour le moment ça continue puisqu'il y a quand même eu 600 morts dans la semaine. Les 1800 militaires français présents ne suffisent évidemment pas à maintenir la paix et à empêcher les affrontements entre communautés chrétiennes et musulmanes là où les tensions sont fortes, sur fond de situations humanitaires catastrophiques, 400 000 déplacés, sans hygiène, sans eau, presque sans nourriture. On est vraiment dans une situation difficile dans un pays où l'État est un petit peu démantelé.
Oui, la République centrafricaine, c'est un État failli. Et on le sait, et ceci depuis plus d'un an, depuis donc la prise du pouvoir par la CKLA. Et on a laissé faire, pensant effectivement, on a laissé faire parce qu'on a quelque part adoubé la chute de Bozizé, et on espérait que quelque chose de constructif allait en sortir. Or, tout de suite, les populations du Sud, majorité chrétienne, ont vu la CKLA comme le Nord à majorité musulmane qui impose donc sa politique sur l'ensemble du pays et sur Bangui. On ne voulait pas intervenir parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. On intervient aujourd'hui trop tard. On pourrait même dire que c'est l'intervention française qui a précipité les exactions entre communautés. Tu parlais de ces centaines de morts de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on se trouve un peu dans l'impasse. Et c'est effectivement pas les quelques centaines d'hommes de l'armée française qui changeront quoi que ce soit. Et c'est pas les pays africains qui m'ont envoyé leurs troupes dans une situation qui semble dépasser un peu tout le monde aujourd'hui. Alors, d'un côté, on a la CKLA, donc on demande à ce qu'elle soit désarmée, qu'elle retourne dans ses casernes. Elle est à majorité musulmane. On a une population chrétienne qui en profite pour s'attaquer donc à la minorité musulmane dans le sud du pays, à Bangui et dans la région. Et on voit bien que on est dans ce cycle d'attaques représailles, et on ne peut pas s'en sortir. Les affidés des troupes françaises, à commencer par les Tchadiens d'Idriss Déby, jusqu'à présent très fidèles, on l'a vu au Mali, là se retrouvent un peu à contre-cœur, donc à seconder l'armée française, alors que ce sont leurs co-religionnaires musulmans donc, qui sont pris à partie. Donc on voit bien que les choses n'ont pas été pensées par l'état-major français jusqu'au bout. Hein. On parlait d'opérations circoncises. On voit bien qu'on est parti sur une opération qui va être de longue haleine.
Voilà. Puis au Congo, la situation n'est guère meilleure, puisque officiellement, c'est la fin du M23 qui dépose les armes après 20 mois de conflit. Mais dans le cadre d'un accord ambigu autour d'une question d'amnistie et de réintégration des anciens rebelles dans l'armée, il reste que les grands chefs en sont exclus. Alors, de cet accord, donc, que vont-ils faire? On sait qu'ils se tiennent sur la frontière proche du Rwanda, frontière extrêmement perméable, et que le FDLR des Hutus du Rwanda gardent toute leur influence et leur force de frappe, on veut dire, dans cette région riche en minerais, et qu'ils n'ont peut-être pas abandonné toute leur velléité de prise des intérêts locaux. Donc si la situation est un peu stabilisée au sud et au centre, le nord du Rwanda, du Congo reste extrêmement instable pour le moment, sans situation pérenne.
Tout à fait, on voit bien le souci aujourd'hui des États africains, ce sont des États qui faillissent. Alors la plupart sont issus de la décolonisation après 1960, donc c'était à une époque où on remettait le pouvoir, les rênes à des personnalités politiques, des régimes durs et des populations qui étaient non structurées et faibles. Aujourd'hui, avec l'explosion démographique du continent, on voit bien que ces États qui n'ont pas su grossir, se renforcer comme s'est renforcée leur population démographique, n'y arrivent pas. Hein, et on l'a vu en République centrafricaine, on le voit en République démocratique du Congo, au Mali. On dirait que ça fait boule de neige. Hein, donc ce qui s'est passé pour la Corne d'Afrique, ça risque effectivement de s'étaler sur un bon tiers, pour ne pas parler d'une bonne moitié des États africains qui sont en état de semi-faillite, hein, en tant qu'État, donc où l'État n'assure plus son rôle, où on prend la République centrafricaine, il n'y a plus de policiers maintenant depuis un an, il n'y a plus de douane, il n'y a plus de tous les représentants donc de l'État régalien, enfin des services de l'État. Donc les gens se tournent vers le chef local, vers la bande organisée locale, plus ou moins mafieuse, plus ou moins affidée, et on voit donc ce schéma donc se démultiplier sur tout cet espace, hein, qui va de la Mauritanie jusqu'à la mer Rouge et qui est en train de faire tache d'huile. Hein.
Voilà, on n'en dira pas plus aujourd'hui sur l'Afrique. On va dire quelques mots de la Tunisie qui vient de toucher un Premier ministre à défaut d'un gouvernement, puisqu'il a maintenant ce Premier ministre 2 mois pour le constituer. Premier ministre issu un peu à la surprise générale du Serail, c'est-à-dire qu'il était ministre de l'Industrie, ce Meldi Lomma. Et c'est suite à un accord enfin trouvé au bout de 2 mois entre islamistes et laïcs, entre guillemets, qu'il a pu être accepté par tout le monde. Il lui reste à constituer un gouvernement qui satisfasse tout le monde. Donc si c'est un pas dans la vie politique tunisienne, ce n'est pas encore la fin de tous les problèmes et les péripéties. Tu avais un commentaire, non ?
Non.
Robert, non, là-dessus ?
Pas spécialement.
Voilà, qu'est-ce qu'on voulait. Bon, on va parler de l'Europe aussi, peut-être l'Ukraine. L'Ukraine, où, alors on ne sait pas ce qui va finir par en advenir, mais hier, il y avait, paraît-il plutôt, 200 000 personnes à Kiev dans la rue. Les barricades sont toujours en place. Yanukovych cherche lui à toucher le beurre et l'argent du beurre des deux côtés. Les Européens s'énervent un peu et lui ont suspendu les négociations, et ce qui revient aussi à couper un certain nombre d'aides. Yanukovych doit rencontrer Poutine et sans doute signer un accord pour entrer dans l'union douanière chère à Poutine, qui cherche à reconstituer autour de la Russie une petite Union européenne à sa façon, qui s'opposerait à l'autre. On a vu des gens venir soutenir le mouvement dont on ne sait pas si c'est un soutien ou un boulet, comme McCain, le sénateur républicain, qui met la pression en disant aux Ukrainiens « Votre destin est en Europe ». Je ne suis pas sûr que ce soit avec ce genre de comportement qu'on arrange quand vraiment la situation et qu'on tranquillise les choses et qu'on s'oriente vers une sortie du conflit. Mais à l'heure qu'il est, donc, toujours dans l'incertitude de l'avenir de Yanukovych, qui s'accroche bien au pouvoir.
Yanukovych, son mandat court jusqu'en 2015, on va dire encore. Il a un an et demi devant lui, donc en même temps, il sent que ça commence à chauffer un peu. Demain, il y a une réunion cruciale, puisqu'il doit se rendre à Moscou, hein, auprès de Vladimir Poutine. Certains déjà spéculent en disant qu'il va signer donc cet accord douanier avec la Russie, qui ferait rentrer l'Ukraine dans cette future entité avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie et d'autres puissances ou anciennes républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. On voit bien qu'à travers le dossier ukrainien, on est un peu gêné aux entournures, hein, c'est-à-dire, disons les choses clairement, les Ukrainiens, du moins les europhophiles, ont vraiment la certitude que tôt ou tard ils vont intégrer l'Union européenne, hein, l'Union, donc, et que cet accord que devait signer au bord de la mer Baltique Yanukovych en leur nom, c'était juste un premier pas en vue de l'intégration pleine dans l'Union européenne. Les Européens, on voit bien qu'il y a une panne un peu de l'intégration. Hein. On vient d'intégrer la Croatie au 1er juillet de cette année. On n'a pas fait non plus grand cas. Beaucoup de nos concitoyens ne savent même pas qu'il y a 28 pays aujourd'hui dans l'Union européenne. Bon, l'idée européenne a un peu du plomb dans l'aile. Alors, à l'idée d'intégrer l'Ukraine, on en est encore très très loin. Alors, on voit bien que d'un côté, d'un point de vue politique, il est hors de question d'intégrer l'Ukraine, mais il est surtout encore moins, d'un point de vue géostratégique, question de laisser donc l'ogre russe mettre la main donc sur cette ancienne Russie, si j'ose dire la Russie historique, hein, l'État de Kiev, qui est aujourd'hui l'Ukraine moderne. Et on se rend compte que la présence de McCain est là aussi, pas pour défendre les libertés, hein, pas pour défendre les valeurs du peuple. Personne sort dans la rue aujourd'hui pour réclamer donc un avenir meilleur au niveau social, non. Il y a une scission qui est très très forte et au sein de la société ukrainienne entre d'un côté, une population ukrainienne de moins de 30 ans qui est tournée donc vers l'Europe, et de l'autre côté, des gens plus âgés qui sont toujours, pour la plupart, russophones et qui sont tournés donc vers Moscou. Et quand je parle de ça, je ne parle pas de l'Ukraine en son entité, mais plus particulièrement des Ukrainiens donc orientaux de la région de Kharkiv, de Donetsk, etc., qui a en son sein donc la plupart du complexe industriel et qui est déjà fortement intégré donc à la Russie. Eux, finalement, ça coule de source que l'Ukraine rentre dans cette union douanière. Après tout, c'est juste la continuation de ce qu'ils ont connu sous l'Union soviétique. De l'autre côté, vous avez l'Ukraine occidentale, la région de Lvov, Lviv, comme on veut, et qui est très fortement sous influence occidentale, polonaise historiquement, dans l'Empire austro-hongrois, qui a subi historiquement une politique donc de conversion, hein, de ces populations au catholicisme. Alors, certains sont passés directement donc dans l'Église catholique, d'autres ont accepté que le pape soit le primat donc de leur Église, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe ougnate, et on voit bien donc que ces tensions historiques qui ont perduré durant tout le XXe siècle, hein, qui ont culminé pendant la guerre 40-45 en Russie, où la plupart des Ukrainiens occidentaux ont intégré donc des régimes, le régime nazi, puisqu'ils ont été supplétifs, hein, des forces allemandes contre l'armée rouge. On voit bien de nouveau ces tensions, enfin, et ces antagonismes ressurgir. Et c'est assez désolant de voir que d'un côté, le seul but aujourd'hui de l'Union européenne et de l'Occident, pour parler, hein, parce que États-Unis et Grande Chancellerie occidentale partagent un peu les mêmes points de vue d'un point de vue géostratégique, c'est surtout ne laissons pas les Russes mettre main basse donc sur l'Ukraine et faisons tout en sorte pour leur promettre de rentrer dedans dans l'Union européenne, mais on n'en est pas prêt. D'ailleurs, personne n'ose consulter les populations européennes pour savoir si nous, autres Européens, on voudrait bien que l'Ukraine, tôt ou tard, rentre dans l'Union européenne. Il est hors de question. On voit bien donc derrière derrière ces enjeux, des enjeux purement géostratégiques et qui sont assez primaires. Hein. L'Ukraine nous intéresse si, effectivement, on peut barrer la route du sud vers la mer Chaude, vers la mer Noire, à la Russie. Dans ce cas-là, oui, la flotte russe en mer Noire est basée à Sébastopol, donc sur la péninsule de Crimée, que les Russes revendiquent et qui est aujourd'hui ukrainienne. Donc on voit bien ces arrière-pensées, hein, qui sont omniprésentes sur ce dossier ukrainien. Et il ne faut pas croire que, sous prétexte qu'on nous monte la population massivement, et c'est vrai, hein, comme je répète, les jeunes et les Ukrainiens occidentaux descendent massivement dans la rue, ils sont vraiment pro-européens. Il ne faut pas croire qu'il n'existe pas donc l'autre moitié de la population. La preuve en est, c'est quand même Yanukovych a été élu, celle qu'on appelle celle des régions, et qui ne conteste pas donc pour autant donc cet état de fait. Donc à vouloir comme ça jouer, parce que c'est assez osé ce que fait McCain, hein, de imaginer effectivement un représentant du parti de Poutine tenir meeting comme ça pour la sécession de l'Alaska, parce que les Inuits d'Alaska veulent l'indépendance. Tiens, je crois qu'ils seraient remis dans l'avion aussi vite direction Moscou. Donc on voit que là aussi on attise un peu des antagonismes qui peuvent, il faut pas le croire, hein, déboucher sur des tensions qui risquent d'être beaucoup beaucoup plus dures. Là, à travers ce dossier ukrainien, pour les Russes, hein, qui considèrent toujours d'un point de vue historique, il ne faut pas l'oublier ça, l'Ukraine comme la Russie historique, hein, pour ceux qui ont un peu connaissance de l'histoire russe, la Russie est apparue à Kiev, hein, elle n'est pas apparue à Moscou. Le fait de voir les diplomates occidentaux manœuvrer en arrière-plan, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Alors on l'a vu sur d'autres dossiers, les Russes, la diplomatie russe a tendance maintenant à jouer de manière franche. On l'a vu pour la Syrie, hein. Il était hors de question de négocier le départ de Bachar al-Assad. Et il est encore moins question aujourd'hui donc de laisser s'échapper finalement une région qui, même si elle est indépendante, fait partie de la sphère culturelle slave ou russe, ou grande russe des Russies. C'est une des Russies, l'Ukraine, aujourd'hui, dans l'état d'esprit des Russes.
Voilà, en Europe aussi, il faut dire un mot. Alors, les Tunisiens ont mis 2 mois pour faire le gouvernement, meilleur que les Allemands, qui, eux, Merkel, a mis 3 mois après les élections pour constituer un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates du SPD, qui ont récupéré le ministère de l'économie et de l'énergie et des affaires étrangères. Bref, un gouvernement qui va faire une petite place, 25% à peu près des postes, gouvernement de coalition, donc constitué en Allemagne. Voilà, Robert, tu avais peut-être un autre sujet international avant qu'on arrête assez vite cette rubrique-là.
Oui, peut-être signaler que le gouvernement israélien à stopper le processus entamé d'expulsion de 70 000 Bédouins. Ça se passe dans le Negev, qui est un des lieux où sont la plupart des 260 000 Bédouins en Israël. Et on peut penser que des pressions internationales ont dû jouer pour que Netanyahou stoppe cette initiative qui s'apparentait à de l'apartheid littéralement. Un dédommagement était prévu, mais évidemment, on se doute bien que ce dédommagement ne devait pas constituer quelque chose qui permettait aux Bédouins de garder leur dignité. Les pressions internationales feront peut-être que cette décision de déplacer ces dizaines de milliers de Bédouins, nouvelle honte sur l'État israélien ne se perpétue pas.
Voilà, l'heure avance, on n'a pas traité tout le sujet, on pourra les reprendre lundi prochain, mais je vous propose une pause musicale. On va la faire avec... on va la faire aujourd'hui avec Alain Bert et Michel Grange qui seront aux ateliers ce soir, demain et mercredi. Ils ont un spectacle Ferré, ils chantent Ferré et eux le chantent plutôt bien. La poésie fout le camp-villon.
Tu peux toujours t'emmitoufler pour la saison chez Gallimard. Je sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le camp-villon. La guidéance sous du néon. Et tes chansons même en argot ont quelques siècles sur le dos. Si je parle d'une balade à faire avec mon vieux hibou, on me demandera jusqu'où je pense aller en promenade. On ne sait pas dans mon quartier qu'une balade en vers français, ça se fait sur dessous de papier et sans forcément promener. La poésie fout le camp-villon. Y'a que des bêtas sous du béton. Et des chansons même en argot ont quelques siècles sur le dos. En l'an 2000 et un peu plus de tes juges on allait petit. Ça tient de famille à ce que l'on dit. Ça se fout une robe et t'es pendu. Tu vois, rien n'a tellement changé, à part le fait que tu n'es plus pour aimer les coups de pied au cul que nous ne savons plus donner. La poésie fout le camp-villon. Y'a du néant sous du néon. Et tes chansons même en argot ont quelques siècles sur le dos. Emmène-moi dedans ta nuit qui est pas frangine avec la loi. J'ordonne qu'après mon trépas ce qui est écrit soit écrit. Y'a des corbeaux qui traînent ici, peut-être qu'ils n'ont plus de pain. Et je n'attendrai pas demain pour qu'ils aient un peu de ma vie. La poésie fout le camp, François. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons boire à Montfaucon, à la santé de la chanson. Emmène-moi, emmène-moi. Nous irons voir à Montfaucon, à la santé de la chanson.
Voilà, vous écoutez toujours Radio Canu 102.2 MHz, le Canu Info du lundi 16 décembre 2013, avec pour la rubrique nationale Jean-Pierre et Robert en duplex. Pour aborder un premier sujet, Robert, on a parlé du SMIC tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça dans la vie, mais même si c'est extrêmement important pour ceux qui y sont soumis. Tu voulais parler d'un autre sujet ?
Oui, on peut faire peut-être passer en revue, hélas, les sujets qui fâchent l'Élysée, mais qui en même temps laissent visiblement indifférent celui qui normalement devrait être monté au créneau, c'est-à-dire Montebourg. Je pense naturellement à tous les conflits sociaux qui sont liés, ne sont même pas des conflits, je veux dire, c'est des annonces souvent de réduction d'effectifs, que ce soit dans les grandes entreprises comme EADS ou que ce soit Veolia, la Sanofi et puis quelques autres, ou des plus petites entreprises dont on parle moins parce qu'effectivement elles n'ont pas l'habitude d'être citées régulièrement dans les médias. Ça veut dire que dans aussi bien ce qui concerne EADS que Veolia et Sanofi, ben c'est au-delà de la mauvaise humeur, de la déception, des mini rassemblements, des mini grèves et puis des déplacements du côté de Paris pour se faire pression ici ou là, mais rien de bien inquiétant, si ce n'est si on fait l'addition de tout ça, mais individuellement des conflits très individualisés où d'ailleurs on ne voit entre eux aucune coordination permettant de poser globalement le problème de l'emploi comme il devrait être posé actuellement.
Voilà, alors bon, tu as cité quelques-uns de ces conflits. On peut parler encore de Favor Brandt, donc Montebourg, je sais pas où il les a trouvés, mais il met 10 millions sur la table, paraît-il. Les banques en mettraient 14. Et il est question de redémarrer Orléans, puisqu'il y a Orléans, Vendôme, La Roche-sur-Yon, Aisnay et Gerland, puisque là-bas, au bout du cours Jean Jaurès, il y a une usine Brandt de machines à laver que les Lyonnais connaissent bien. Donc un redépart serait possible si les Espagnols aussi laissent redémarrer l'activité avec une autre base. Il y a quand même, rien que pour la France, je crois, oui, 1900 salariés qui sont dans la balance, quoi.
Pour revenir plus en détail, effectivement, on peut parler de Chem1, qui d'ailleurs concerne un certain nombre de travailleurs de la région lyonnaise. Montebourg ne lâche pas les cordons de la bourse. En fait, on pense que c'est pas lui qui décide, c'est Cazeneuve et puis au ministère du budget, puisque finalement le projet de redémarrage tel qu'il était proposé, notamment par la CGT, dans les conditions actuelles du financement, rien ne peut se faire parce que la Banque publique d'investissement, cette création de la gauche, mais qui visiblement est très parcimonieuse quant à l'utilisation de l'argent, ne veut pas débloquer de quelques millions nécessaires. Alors que d'autres, la CGT naturellement comptait dessus dans le cadre de son projet, qui était de type coopérative ouvrière, et les deux autres internationaux, c'est-à-dire le fonds américain comme l'industriel français qui sont sur les rangs, eh bien aussi attendaient que le gouvernement, l'État mette l'argent d'abord sur la table, qui n'a pas été fait. Donc rien ne dit que la semaine prochaine, lorsque le tribunal de Lyon, le tribunal commercial de Lyon, s'emparera à nouveau de Kenwood, on ne soit pas finalement au bord du dépôt de bilan.
Voilà, sur le front social, il faut parler aussi des grèves des sages-femmes qui sont toujours en grève depuis le 16 octobre. Il y avait aujourd'hui une rencontre avec Touraine. Je ne sais pas si elle est terminée et ce qu'en est sorti. Mais ce métier qui avait une certaine stabilité autrefois, avec les restructurations de maternité, connaît maintenant des situations de CDD, des situations de chômage, puisqu'on fait travailler peu de monde, mais énormément. Et du coup, c'est devenu un métier un peu précaire et les sages-femmes réclament un statut qui reconnaisse le caractère hospitalier de leur fonction. Un choix qui ne fait pas d'ailleurs l'unanimité dans la profession. puisque certains voient là une reconnaissance du statut de praticien, la perte d'un statut de fonctionnaire. Donc il y a des choses difficiles à régler, d'où ces discussions avec les pouvoirs publics. Il y a 12 000 hospitalières en France quand même qui œuvrent dans cette activité éminemment essentielle à la reproduction de l'espèce, hein, si on peut dire. Voilà, tu avais d'autres infos.
Oui, également le conflit qui monte en puissance à la SNCF, tout simplement parce que les syndicats et puis généralement beaucoup de gens qui sont attachés au service public attendaient que ce gouvernement de gauche fasse un véritable pôle transport public. C'est-à-dire regroupe ce que Sarkozy et les gouvernements précédents étaient en cours de faire, c'est-à-dire de démanteler pour les rendre perméables à toutes les concurrences européennes. Eh bien non, ce gouvernement ne le fait pas, il poursuit, prétend-il d'une autre manière, mais le résultat sera le même, il poursuit le démantèlement de tout ce qui constituait le secteur de la SNCF, d'où des arrêts de travail comme celui qui a eu lieu la semaine dernière et qui risque de se reproduire, peut-être même avant la fin de l'année, malgré les assurances données. On ne sait pas comment peut-il donner ce genre d'assurance du directeur Pépi, disant mais non, soyez rassurés, braves Français, vous pourrez voyager tranquille pour Noël et pour le premier de l'an. Enfin, rien n'est acquis et surtout ce genre de déclaration a priori paraît bien comme une espèce de provocation à l'égard des salariés et de tous les gens qui finalement sont gênés par les grèves à la SNCF naturellement, mais qui comprennent bien que la SNCF et qu'ils ont un sens aussi de cette nécessité d'un transport public qui ne soit pas comme ça liquidé en fonction des lois du libre marché. Il y avait un autre aspect de la politique sociale. Hollande s'en félicite et puis dit, voyez comme on avance. C'est l'accord intervenu en matière de formation professionnelle. Bon, c'est à étudier de près, mais en fait, une fois de plus, on a compris que s'il y a un accord, c'est parce que c'est l'État qui va payer et que l'État, eh bien, on ne sait pas trop comment et quand il va payer. Après l'accord sur l'accord national qui concernait l'interprofessionnel, dont s'était félicité également en son temps Hollande, eh bien cet accord sur la formation professionnelle va sans doute provoquer plus de déception que de satisfaction du côté des travailleurs et de l'ensemble des gens qui sont soit en chômage, soit en reconversion, soit qui sont amenés à changer de métier.
L'affaire n'est pas finie puisque le projet de loi doit être déposé pour le 22 janvier et sera débattu en février. Il y a un enjeu fabuleux parce que je crois que c'est 40 milliards d'argent qui est consacré à la formation professionnelle et il y a peut-être un peu une tentative de rectification de tir par les politiques là qui voudraient que ces 40 milliards sont utilisés à bon escient par les patrons et pas toujours au profit des ouvriers. Il y a toute une série de manières de détourner l'argent, de financer des organismes bidons ou des formations bidons qui sont plus des parties récréatives pour récompenser les salariés dociles que des véritables formations. Et puis en ligne de mire, il y a aussi cette mise en place d'une espèce de compte formation qui donnerait un employé, oh c'est pas mirobolant, pour 9 ans de travail, un mois de formation. Donc s'il travaille 4 fois 9 ans, il aura 4 mois de formation dans sa vie. Ça ne paraît pas quelque chose de... Mais enfin, c'est quelque chose que le salarié pourrait conserver indépendamment des employeurs, alors qu'actuellement, chaque employeur accorde ou propose ou pas une formation au salarié selon son bon vouloir et ses intérêts. Le rapport sur la politique d'intégration en France fait débat. Il était paru il y a un mois, personne s'y était intéressé. C'est un rapport, c'est pas un rapport ministériel, c'est un rapport d'un certain nombre d'experts, et c'est l'UMP qui lève le lièvre en sortant ses propres propositions et qui s'indigne des propositions qui sont faites par cette commission d'intégration. Donc ça fait un débat, c'est sans doute pas étranger à le fait qu'on soit à 100 jours des municipales que de réagiter le spectre du communautarisme à travers ces propositions qui figurent dans le rapport. L'action des groupes de consommateurs pourrait être possible si le projet de loi qui était en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'autorise, hein, ce que les Anglais et les Anglo-Saxons appellent les class actions, c'est-à-dire la possibilité pour un groupe de personnes via une association de se porter en justice contre des pratiques dont ils estimeraient être abusées par des industriels ou des pratiques qui peuvent avoir des dommages de santé. Voilà, dans le cadre encore des choses des conditions de vie, on va dire, il y a cette consultation sur la fin de vie. C'était aussi un des engagements de Hollande, qui a convoqué une conférence de citoyens pour faire un certain nombre de propositions autour des fins d'agonie, de l'euthanasie éventuelle, comment la mettre en place, la réglementer. En tous les cas, il semble que le suicide assisté dans cette perspective ne pourrait se faire qu'en milieu médical, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens et d'associations qui se revendiquent de cette pratique selon le souhait de leurs patients. Là aussi, une loi prévue à l'été 94. Robert, tu avais autre chose dont tu voulais parler
compléter. Le congrès de l'UNEF qui s'est tenu cette fin de semaine, il y a probablement eu changement de président, mais ce qu'il faut rappeler, c'est ce qui, à savoir que l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, n'est pas très mobilisée, ou ne surtout, elle, en tant que structure, ne mobilise pas beaucoup les étudiants pour se battre sur leurs revendications. Et ce qui crée un certain malaise, ou un malaise certain, c'est pas nouveau, et c'est surtout, ça n'est pas nouveau quand c'est la gauche PS qui est au pouvoir, parce que faut bien se rendre compte que finalement, les présidences de l'UNEF, souvent, sont des ascenseurs vers le PS, et il suffit de regarder d'ailleurs où sont un certain nombre d'anciens leaders de l'UNEF aujourd'hui, dans les sphères de l'État PS.
Alors, cite-nous un ou deux noms. Hein.
Oh, je les ai pas. Si tu les as, tu les donnes. Hein, mais ben, ils sont faits.
Harlem Désir, lui, c'était pas l'UNEF, c'était Touche pas à mon pote.
Ah, oui, alors ça, c'est autre chose.
C'est
oui,
aussi une autre filière qui marche pas mal.
C'était SOS Racisme, mais Touche pas à mon pote, oui. Non, mais l'UNEF aussi a fourni, et plusieurs d'ailleurs, je sais pas les noms, mais sont députés dans la région parisienne, ou sont sur les tablettes, ou même dans les structures politiques du Parti socialiste.
Ouais. Certains étudiants lyonnais.
Ceux qui étaient communistes, parce que l'UNEF, on sait, ça a souvent été une UNEF avec souvent des désaccords. Il y avait une UNEF socialiste, une UNEF communiste. Et chaque fois qu'il y a eu réunification, en fait, l'UNEF communiste, ses leaders, eux, n'ont pas eu cette chance de pouvoir grimper dans l'ascenseur qui se déplaçait vers le haut. Je voulais dire aussi un mot, peut-être simplement des chiffres. Deux chiffres donnés par, c'est un peu côté statistique actuel, pas définitive, que donne le PCF sur les négociations en vue des élections municipales. Alors, c'est des statistiques qui portent sur 400 villes de plus de 20 000 habitants. Et sur ces 400, alors, le PCF fait à peu près ce décompte, si on schématise. 195, donc quasi, mais c'est pas définitif, mais sans doute déjà la moitié se conclut par ces négociations pour les partis de gauche, se conclut par un accord avec le PS. Et puis 137, donc beaucoup moins, ce sont des alliances front de gauche, plutôt de type front de gauche, autonomie. Alors on se rappelle que ça avait été le grand débat, puisque le parti de gauche, lui, souhaitait que partout on fasse que le front de gauche, donc avec le PCF, fasse des listes autonomes. Bon, mais il n'en a rien été. Le PCF, finalement, a reconduit, on va dire, la politique antérieure pour une grande partie de ces communes de plus de 20 000 habitants.
Voilà, ben on arrive au terme de Scania FA, une petite page d'annonce culturelle. Il y en a peu, mais enfin l'activité reprend, le 8 décembre étant passé. Je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du spectacle de Michel Grange, Alain Bert, Chantelet au Ferré, mais c'est lundi, mardi, mercredi aux ateliers. Hein. Par contre, à tout bout de champ, vous pourrez écouter Sartlo, jeudi et vendredi, qui sera sur scène. Et puis jeudi aussi, pas à la même heure avant, sur l'autre côté du pont, Papy Art procède à l'accrochage de ses derniers calendriers rue de la Sérigraphie. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de nous quitter pour ce Canu Info sur la chanson de Sartlo, Les Riches, il connaît le sujet, paraît-il. Et puis nous nous retrouverons lundi prochain. Ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Mais surtout, ne quittez pas l'antenne, une surprise vous attend.
C'est super pour les commissions, pour le produit national brut et cotonné sous pour les putes. Avec des talbins plein les fouilles, on peut pas vous casser les couilles. Mais quand la banque fait des conneries, y'a plus un radis, c'est fini. Et ils se retrouvent à la rue, sont pas fichus de bouger leur cul. N'ont jamais rien fait de leur dix doigts. Forcément. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison.